Bonsoir. J'aimerais faire une lecture avec vous, on en fera plusieurs. Dans l'évangile de Matthieu, au chapitre 20, il y a deux hommes qui ont fait une expérience. Peut-être que c'est ce que vous aimeriez faire, une expérience. Une nouvelle expérience. Matthieu chapitre 20, verset 29. Lorsqu'ils sortirent de Jéricho, une grande foule suivit Jésus. Et voici, deux aveugles assis au bord du chemin entendirent que Jésus passait et crièrent « Aie pitié de nous, Seigneur, fils de David !» La foule les reprenait pour les faire taire, mais ils crièrent plus fort « Aie pitié de nous, Seigneur, fils de David !» Jésus s'arrêta, les appela et dit « Que voulez-vous que je vous fasse ?» Ils lui dirent « Seigneur, que nos yeux s'ouvrent !» Ému de compassion, Jésus toucha leurs yeux, et aussitôt, ils recouvrèrent la vue et le suivirent. Amen. Vous connaissiez cette histoire? Vous la connaissez? C'est une histoire, quand on la lit 50 fois, on finit par dire, mais combien c'est normal que Jésus demande à deux aveugles, que voulez-vous que je vous fasse? Ça paraît simple, qu'est-ce que vous en pensez? Non? Que voulez-vous que je vous fasse? Et ce soir, si le Seigneur était présent parmi nous, que nous nous approchions de lui, peut-être dans une situation beaucoup plus difficile, parce que eux, écoutez bien, eux étaient conscients de leurs besoins. Vous me suivez? Ils étaient aveugles, ils ne pouvaient presque pas demander autre chose. Quoique, on a vu des gens, dans des conditions difficiles, demander autre chose que le besoin immédiat. Vous comprenez ce que je veux dire? Moi, j'ai vu des gens malades, très malades, me demander d'aller à l'hôpital, prier pour eux, qu'est-ce que vous voulez? Ah, moi, je veux sauver mon âme. Ils pensaient même pas à leur guérison. Ils pensaient qu'ils allaient mourir. Et eux, ils ne demandent même pas la guérison, ils étaient focalisés sur l'essentiel, le salut de leur âme. Vous voyez, c'est la preuve qu'on peut demander autre chose que ce qu'on pourrait penser. Cette histoire, elle est dans la Bible pour nous rappeler que Jésus ouvre les yeux. Il ouvre les yeux physiques, mais il ouvre surtout les yeux du cœur. C'est ça l'enseignement. Jésus ouvre les oreilles physiques, il a guéri les sourds, mais il peut ouvrir notre cœur. Vous allez me dire, mais j'entends, moi j'ai des oreilles qui fonctionnent très bien. Je ne parle pas des oreilles physiques. Bien sûr que vous entendez ma voix, les paroles que je prononce, et nous avons lu le texte en question. Mais vous savez, c'est une chose d'entendre avec sa tête, et c'en est une autre d'entendre dans son cœur. Et Jésus dit, mais j'ouvrirai les yeux des aveugles. J'ouvrirai les oreilles des sourds. Et il dira souvent, mais vous avez des yeux. On est dans le chapitre 20, regardez dans le chapitre 13. Dans la parabole du semeur, ça revient souvent, c'est un reproche terrible que Dieu pourrait adresser certainement dans beaucoup d'églises du monde entier, cette légèreté que nous avons au niveau spirituel. Dans Matthieu chapitre 13, Dieu explique qu'il y a des gens qui sont bénis, il y a des gens qui ne le sont pas, il y a des gens qui entendent, il y a des gens qui connaissent, d'autres qui connaissent pas, etc. Et puis il dit au verset 15, Matthieu 13, 15, « Car le cœur de ce peuple est devenu insensible. » Ils ont endurci leurs oreilles, ils ont fermé leurs yeux. Attendez, vous avez vu la suite? De peur qu'ils ne voient de leurs yeux, qu'ils n'entendent de leurs oreilles, qu'ils ne comprennent de leur cœur, qu'ils ne se convertissent et que je ne les guérisse. Mais heureux sont vos yeux parce qu'ils voient et vos oreilles parce qu'elles entendent. Donc on voit bien, à la lumière de ces deux textes, qu'il y a bien sûr la guérison physique, mais il y a surtout la guérison spirituelle. Et nous pouvons ne pas connaître notre besoin. Alors cette histoire, quelqu'un me dit, ah mais je la connais cette histoire. Ah mais je sais ce qu'il va dire le pasteur. J'ai entendu 20 réunions d'évangélisation sur la guérison d'un aveugle. Ah oui, et comment cela se fait-il que tu ne vois pas encore ce que Dieu voudrait te montrer? Vous avez dit, mais moi je sais où j'en suis, je sais très bien ce que je fais, je sais très bien ce que je dois faire. Vous rappelez les derniers reproches que Dieu fait à l'église de la Odyssée? vous rappelez? Une église qui pensait qu'elle était riche parce qu'elle avait certainement des moyens financiers, des moyens sociaux, etc. C'est une église qui se croit riche. Elle est dans une illusion totale. Et Jésus lui dit, mais tu sais pas. Tu sais pas que tu es aveugle. Tu sais pas que tu es pauvre. Donc la richesse, ça n'a rien à voir avec les qualités, les dons, les talents, les capacités. La richesse, ce n'est pas ça. Donc ce soir, si on était honnête, et si on voulait s'identifier à cette église, en plus, à cette affaire, en plus il nous est dit que cette affaire, ça s'est passé à Jéricho. Vous savez ce qui s'est passé à Jéricho. Jéricho, c'était une grande ville fortifiée, imprenable, et pourtant la foi a fait que ils ont eu cette victoire. Donc ce texte commence en nous rappelant que par la foi, par l'obéissance à la parole, nous pouvons remporter des victoires. Bien sûr que nous pourrions dire ce soir, bien, il y a un aveugle, il y a un paralytique, c'est déjà arrivé. Et il a été guéri. Moi, je parlais tout à l'heure de mon séjour en Polynésie. Moi, j'ai vu des gens guéris parce qu'ils avaient cette foi toute simple. Ils croyaient vraiment que Jésus avait le pouvoir de guérir. Ce soir, vous le croyez, vous ne le croyez pas, je n'en sais rien. Mais une chose est sûre, c'est que ma responsabilité, c'est de vous aider à reproduire la même expérience. Pas au niveau physique, au niveau spirituel. Parce que ces aveugles, malgré tout, tout aveugles qu'ils étaient, ils ont cherché la présence du Seigneur. Vous avez vu, moi j'aime ces textes, comme au verset 32, il nous est dit que malgré le travail que Jésus faisait, Jésus s'arrêta. Tiens donc, est-ce que vous voulez que Jésus s'arrête dans votre vie, devant votre vie? Parce qu'aller à l'église, c'est une chose, vous en conviendrez. Mais est-ce que vous avez déjà pris du temps, le temps que Dieu voudrait, pour que vraiment sa présence se manifeste et vous amène, nous amène, à exprimer notre véritable besoin? Parce qu'on le voit dans la parole de Dieu, les gens demandent, ils demandent, mais on peut prier, est-ce que les païens y prient? Est-ce que les païens y prient? Est-ce qu'il y a écrit dans la Bible, ne priez pas comme les païens? Ben oui, donc les païens prient. Les païens, ils prient. Est-ce qu'on peut prier comme les hypocrites? Oui, parce que la Bible dit, Jésus a dit, ne priez pas, ne soyez pas comme les hypocrites. Comme les païens qui s'imaginent qu'à force de paroles, ils seront exaucés. Il y a des gens qui rabâchent des textes, ils récitent des prières, ça sert à rien. Jésus demande de pas le faire. Le Seigneur, il nous veut dans sa présence. C'est pour ça d'ailleurs que dans cette église de l'Odyssée, ils sont aveugles. Ils sont aveugles parce qu'en vérité, ils ont, au travers de leur activité, ils se sont contentés de la joie de l'activité et ils en ont oublié la communion avec Dieu. C'est pour ça que Jésus dit à cette église une parole terrible, je me tiens à la porte. Et eux pensaient que Jésus était dans l'affaire puisqu'il faisait plein de choses. Mais Jésus leur dit, je suis à la porte. Et je frappe. Et cette affaire, elle nous amène à cette cécité spirituelle. Est-ce que je vois vraiment l'état spirituel dans lequel je suis? Est-ce que je le sais? Est-ce que je connais mon besoin? Par exemple, moi. Je parle de moi une seconde. Je peux penser que mon besoin, c'est quoi? Mon premier besoin, c'est de mieux prêcher. C'est mon besoin. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que ça peut tenir debout? Eh bien oui. Je pense que mon besoin vital, c'est bien prêcher. Mais est-ce que vous pensez que Dieu pense la même chose? Eh bien sûr que non. Vous voyez, mais on peut le penser. Je veux bien prêcher. Seigneur, je veux bien prêcher et je suis complètement dans l'erreur. Parce que ce n'est pas mon besoin. Un besoin, ça peut-être que quelqu'un me dit, oh, si une jeune fille peut dire, Seigneur, donne-moi un mari. Est-ce que c'est biblique qu'une jeune femme demande un mari? Oui, c'est biblique. Est-ce que c'est biblique qu'un jeune homme dit, Seigneur, donne-moi une épouse? Bien sûr que c'est biblique. Donne-moi, on le voit dans la Bible, toutes les fois où Dieu, où des hommes demandent quelque chose. Ce matin, je lisais le psaume 119. Le nombre de fois où David, il dit pas donne-moi d'être un bon roi. Il dit, donne-moi de l'intelligence. Il fait connaître vraiment son besoin. Lisez le psaume 119 et vous verrez le nombre de fois où David demande à Dieu, donne-moi de l'intelligence. Un roi, il doit dire, Seigneur, donne-moi une bonne armée. Est-ce que c'est normal qu'un roi demande de bons chars d'assaut? Donc, David n'a jamais demandé, pourtant c'était un très bon guerrier, il demandait de l'intelligence. Et quand vous voyez comment Dieu parle plus tard de David, on peut le lire ensemble dans le psaume 78, regardez avec moi, c'est important de savoir ce qu'il faut demander à Dieu. Et pas n'importe quoi, les gens ils sont légers, ils vont dans les églises, ils s'imaginent pas à quel point ils sont loin de Dieu, il faut savoir ce qu'il faut demander. Et ça c'est sa présence qui le permet. Regardez le psaume 78, verset 70. C'est important que ce soir, nous terminions cette réunion en demandant au Seigneur que sa présence nous révèle notre besoin. Psaume 78, verset 70. Il choisit David, son serviteur. Il le tira des bergeries, il le prit derrière les brebis qui allaitent, pour lui faire paître Jacob, son peuple, et Israël, son héritage. Et David les dirigea avec un cœur intègre et les conduisit avec des mains intelligentes. Alors on y va, allez, on prend le temps. Dans le psaume 119, regardez. Mais regardez bien, c'est quand même impressionnant. Il a lui aussi besoin, c'est pas un aveugle, David, croyez-moi. Et pourtant, regardez, le psaume 119, verset 18. Qu'est-ce qu'il demande à Dieu? Qu'est-ce qu'il demande? Ouvre mes yeux. Vous voyez? La cécité, ça n'a rien à voir avec les yeux physiques. Bien sûr qu'un aveugle a besoin d'être guéri. Ouvre mes yeux pour que je contemple les merveilles. Regardez verset 34. Donne-moi l'intelligence. Verset 66. Enseigne-moi le bon sens et l'intelligence. Verset 73. Tes mains m'ont créé, elles m'ont formé. Donne-moi l'intelligence pour que j'apprenne tes commandements. Verset 125. Je prends ce que j'ai retenu. Je suis ton serviteur. Donne-moi l'intelligence. Verset 130. La révélation de tes paroles est claire. Elle donne de l'intelligence aux simples. Verset 144. Donne-moi l'intelligence. Verset 169, que mon cri parvienne jusqu'à toi, donne-moi l'intelligence. Bon, vous avez vu le nombre de fois où c'est dit, et je pense que je n'ai pas tout noté. Ouvre mes yeux, il savait que pour diriger le peuple d'Israël, il n'avait pas besoin d'une grosse armée, il l'a eu, il avait besoin de l'intelligence. C'est qui a demandé de l'intelligence? Salomon, est-ce qu'il a demandé de l'intelligence? Et Dieu lui dit, ah tu me demandes de l'intelligence? Eh bien non seulement, je te donnerai de l'intelligence, mais en plus, je te donnerai ceci et cela. Et quand nous allons dans la maison du Seigneur, quels que soient les Jéricho qui nous entourent, les difficultés qui sont là, il faut que nous ayons cette intelligence, justement. L'intelligence, je crois que la définition, c'est cette capacité de s'adapter. Dis, mais Seigneur, quel est mon besoin ce soir? Quel est mon besoin? Oui, je peux avoir besoin d'un conjoint. Oui, moi j'ai vu des femmes dans la souffrance à cause de la stérilité demander à Dieu un enfant. C'est terrible ça, on le voit dans la Bible d'ailleurs. La souffrance des femmes stériles qui demandent un enfant à Dieu. Moi en tant que pasteur, c'est peut-être la chose la plus difficile à gérer dans l'exercice du ministère. Plus que le deuil même. Le deuil c'est normal. La stérilité chez une femme c'est très difficile. Et je vous assure c'est difficile. Mais je crois, on l'a chanté, chercher d'abord le royaume de Dieu. Ces deux aveugles, ils ont entendu que Jésus passait. Ils auraient pu dire, ben on est aveugles, mais si quelqu'un de personne nous amène, ben on reste là. Non, ils ont fait la démarche. On a même vu dans la Bible des aveugles courir après Jésus. Je ne sais pas si vous vous rendez compte de l'image, ça devait être terrible. Les gens, ils s'empêtraient dans un morceau de bois. Ils ont voulu être dans la présence de Jésus. Et je nous pose la question, pourquoi on est venu ce soir à l'église? Est-ce que vraiment on dit, Seigneur, je veux me retrouver dans ta présence? Bien sûr que c'est le top niveau quand vous arrivez à ce niveau où le Seigneur pourra vous dire qu'est-ce que tu veux que je te fasse. Ça c'est sûr et Dieu le veut. Ce qu'il a fait pour les aveugles, croyez-moi, il le fait pour tous ses enfants. Mais approchons-nous avec bon sens, avec foi. Seigneur, oui, mon besoin. C'est vrai que j'aimerais avoir une épouse. Peut-être qu'un jeune a dit non, Jérémie. Si bon, c'est normal. Ben oui, c'est normal. C'est tout à fait normal. qu'un couple dit « Seigneur, on aimerait avoir un enfant ». L'inverse est même bizarre. Après, on comprend. Et si vous prenez une concordance, je l'ai fait ce matin, moi j'ai regardé toutes les fois où des hommes vont demander « Donne-moi du pain ». Tiens, vous connaissez le Notre Père. Donne-nous, chaque jour, notre pain quotidien. Alors si j'ai le congélateur plein, est-ce que ça veut dire que je vais demander du pain matériel? Non. T'as mieux si le congélateur est plein, oui ou non? Mais peut-être que ça veut dire « Nourris mon âme, Seigneur, tous les jours ». Parce que j'arrive même pas à faire mon culte tous les jours. Donne-moi du pain tous les jours, Seigneur. Cette prière-là, Dieu vous aidera à l'exaucer. Et je pense que bien souvent, nous avons lu ces histoires avec beaucoup de légèreté. Oui, Dieu guérit les aveugles, c'est évident. Dieu guérit les paralytiques, c'est évident, on le sait. Mais moi, où j'en suis ce soir? Quel est mon besoin? Quel est mon besoin? Est-ce que j'ai pas besoin que Dieu m'ouvre les yeux à moi sur l'état dans lequel je suis? Tu ne sais pas que tu es pauvre. Tu ne sais pas que tu es malheureux. C'est terrible d'entendre. C'est Dieu qui parle. Et puis il y a plus merci Seigneur. Après tout, s'il nous parle de cette façon, c'est bien ou c'est pas bien? Alors c'est bien? Eh bien si, c'est bien. Parce que ça prouve qu'on est encore à l'écoute. Quand Dieu ne parle plus, qu'est-ce que la Bible dit? Que si Dieu ne nous châtie pas, nous sommes des enfants, la Bible dit, ça va, le texte est vachement fort. La Bible dit que si le Seigneur ne nous châtie pas, nous sommes des bâtards. Ça veut dire que Dieu n'est plus notre Père. Ça veut dire que si nous n'entendons plus la voix de Dieu au travers sa parole, au travers son esprit, c'est vrai, vous savez que c'est vrai. C'est dans Hébreux chapitre 12, si je me trompe, ou 11. Nous sommes des bâtards. Donc quand le Seigneur peut nous parler, c'est encore une grâce. Quand le Seigneur peut me montrer l'état dans lequel je suis, c'est vrai qu'il y a des gens qui ont dit « Mais n'importe quoi, Jésus dit, que voulez-vous que je vous fasse ?» Mais vous comprenez bien que le Seigneur savait ce qu'il faisait. Et ce soir, le Seigneur savait que vous viendriez. Et peut-être il est temps de se mettre seul devant lui. Il est temps que Jésus s'arrête parce que ça suffit, ses petits allers-retours et ses cultes à trois francs six sous de 5 minutes où je me fais croire que je suis spirituel parce que je fais mes cultes en 5 minutes. Je crois qu'il faut que Jésus s'arrête jusqu'à ce qu'il me donne une parole. Vous savez, moi, depuis mardi, je suis persécuté par un verset que je connais par cœur, comme vous. Quand il est dit que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Je ne sais pas si vous vous rendez compte ce que ça veut dire. Ça veut dire qu'un homme sur la terre, un chrétien, peut arriver à un tel degré de marcher dans la volonté qu'elle est parfaite. Ça vous intéresserait, ça? De marcher dans la volonté de Dieu d'une manière parfaite? C'est ça que ça veut dire. Cette progression dans la volonté de Dieu, déjà, ils n'en ont rien à cirer de la volonté de Dieu. Ils espèrent que ça correspond à des bénédictions, et surtout beaucoup de bénédictions. Mais ces deux aveugles, on ne sait pas ce que Dieu leur a demandé plus tard. Bien sûr que ça commençait par cette bénédiction. Et ça doit commencer par la bénédiction. Et ça doit toujours commencer par la bénédiction. Parce qu'il y a toujours la bénédiction du calvaire. Toujours la bénédiction de la croix. Lorsqu'un homme entrera dans le royaume des cieux, il entre parce qu'il a été touché par la croix. Il a été touché par la crucifixion du Seigneur. Il sait qu'il est confronté à son péché. Vous savez, moi, je le sais bien en tant que pasteur. Quand on parle de Dieu à des gens, tout va bien. Parler de Dieu. Ah oui, Dieu, moi, je crois en Dieu parce que j'ai fait des études en astronomie et j'ai étudié l'astronomie et toutes ces mathématiques dans l'espace me prouvent que, ah, alors tu te dis, t'as affaire à un chrétien. Et puis, au bout d'un moment, vous en arrivez à Jésus. Mais Jésus, au fait, vous croyez, ah non, ne me parlez pas de lui. Alors pourquoi les gens s'affectionnent beaucoup de parler de Dieu et ils ne veulent pas entendre parler de Jésus? Parce que quand on parle de Jésus, on parle de la crucifixion. Et quand on parle de la crucifixion, on parle de notre péché. Et quand on parle de notre péché, on est obligé de se remettre en question. C'est pour ça que beaucoup de gens croient en Dieu, mais ils ne veulent surtout pas entendre parler de Jésus. Et pourtant, Jésus, c'est Dieu qui est venu en chair sur la croix porter nos péchés. Et si vous voulez connaître Dieu, il vous faudra passer par Jésus. Parce que Jésus a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Et nul ne vient au Père que par moi. Si vous voulez aller au Seigneur Dieu, il vous faudra passer par le Seigneur Jésus. Parce qu'il est la porte. Il est la porte et ses brebis, elles connaissent sa voix. Seigneur, qu'est-ce que j'ai besoin? Est-ce que vous pouvez ce soir réellement, pas à moi, mais en rentrant tout à l'heure chez vous, peut-être au pied de votre lit, que Jésus s'arrête. J'allais dire au pied de votre lit plutôt qu'au pied de Google. Dire, Seigneur, il faut que tu m'ouvres les yeux tout à nouveau. Parce que vous savez que quand je vois le nombre de chrétiens qui se perdent, pourquoi? Parce qu'ils ont de la haine. La Bible dit que celui qui a de la haine, il est dans les ténèbres. Et si on prenait, on ne va pas le faire, mais peut-être vous pouvez le faire. Et commencez par la Genèse et regardez le nombre de fois où les gens sont aveugles, spirituellement. Ça fait peur. Ce matin, je lisais dans le Deutéronome aussi. Regardez avec moi dans le Deutéronome, chapitre 29. Ça fait peur quand vous comprenez la portée, les dégâts que font la cécité spirituelle. Le nombre de chrétiens qui ne savent pas dans quel état ils sont. Et c'est normal, un aveugle, il ne voit pas. Dans le livre du Deutéronome, regardez, au chapitre 29, il y a toute une rétrospective du parcours du peuple d'Israël. Regardez bien. C'est flagrant parce qu'en plus, c'est dans une période d'expérience. Comme quoi, les expériences ne sont pas forcément révélatrices de bénédictions spirituelles. Deutéronome 29, verset 1er. Voici les paroles de l'alliance que l'Éternel ordonna à Moïse de traiter avec les enfants d'Israël au pays de Moab, outre l'alliance qu'il avait traitée avec eux à Horeb. Moïse convoqua tout Israël et leur dit, vous avez vu, regardez bien le verbe, vous avez vu tout ce que l'Éternel a fait sous vos yeux, dans le pays d'Égypte, à Pharaon, à tous ses serviteurs et à tout son pays. Regardez-moi. Vous rappelez ce que Jésus a fait? Ce que Dieu a fait en Israël, en Égypte? Est-ce que vous trouvez que Dieu a fait de belles choses? Oui? Quand Dieu a ouvert la mer Rouge, par exemple, est-ce que vous trouvez que c'est un miracle, ça, ou c'est un prodige? Est-ce que vous pourriez faire la différence entre un prodige et un miracle? Vous y réfléchirez. Les pasteurs, on en parlera. C'est un prodige. Mais regardez, les grandes épreuves, et tes yeux ont vu, que tes yeux ont vu, voyez. Les miracles, ces grands prodiges. Oui, c'est pas pareil les miracles et les prodiges. Mais regardez le verset 4. Mais, jusqu'à ce jour, l'Éternel ne vous a pas donné un cœur pour comprendre, des yeux pour voir, des oreilles pour entendre. Alors ils ont vu des prodiges, des miracles, des choses que nous aurions tous aimé voir, bien entendu. Et pourtant, Dieu n'a pas pu leur donner des oreilles pour écouter, des yeux pour voir et un cœur pour comprendre. Ce qui nous prouve que les expériences en soi sont excellentes. Et je vous encourage à demander. Vous avez vu le nombre de fois où Dieu dit, mais demandez. Demandez. Demandez, vous recevrez. Je me souviens, j'avais été visiter une chrétienne, ça faisait 2 ans qu'elle vendait sa ferme. Elle était dans tous ses états. Monsieur Gou, on ne comprend pas, on a mis notre ferme en vente, on l'a mis dans plusieurs agents. Mais j'ai dit, mais vous l'avez demandé à Dieu? Bon, vous savez, la ferme, j'ai dit, mais vous ne l'avez pas demandé? En plus, on aimerait acheter une maison à côté de chez notre fille. Mais j'ai dit, mais vous l'avez demandé? Mais non! Mais j'ai dit, mais on va le faire. C'est vrai que c'est en plus une grande ferme, ils voulaient une maison comme ci, comme ça, à côté de chez leur fille. Et puis je dis, on va le demander. Pourquoi vous voulez aller chez votre fille? Parce qu'on vient de prendre la retraite, on aimerait à côté de chez elle pour l'aider. Mais je dis, mais c'est bien ça, Dieu le voit. On va prier. On prie. 2 jours après, elle m'appelle. Monsieur Gou, vous ne le croirez pas! Quelqu'un est venu pour acheter la ferme et on a trouvé une maison juste à côté. Le même jour, on a trouvé une maison à côté de chez notre fille, exactement ce qu'on voulait. Vous ne le croirez pas? Je dis, si, je le crois. Pourquoi vous ne demandez pas? Alors c'est vrai qu'il y a des choses qui peuvent faire obstacle à la prière. C'est vrai qu'on peut demander des choses qui ne servent à rien. Mais lorsque le Seigneur s'arrête, vous ne croyez pas qu'il va nous conduire dans nos prières? Vous ne croyez pas que l'homme qui craint l'Éternel lui montre la voie qu'il doit suivre? Et ces deux aveugles, bien sûr que c'est tellement pathétique presque de prêcher là-dessus, tellement simpliste pour beaucoup de chrétiens, mais ça devrait nous faire réfléchir et prendre peut-être les textes. Eh bien tiens, je vais prendre une concordance et je vais voir dans la Bible tout ce que les gens demandaient à Dieu. Ah oui? Est-ce que c'est possible? Est-ce que c'est facile aujourd'hui d'avoir une concordance? Oui ou non? Ah oui? Vous apprenez une concordance biblique? Tapez le mot, recherchez le mot, donnez. Et vous allez voir dans la Bible ce que les gens ont demandé. Je pense au temps de Zacharie, à ces hommes qui ont demandé de l'intelligence. qui avaient une intelligence supérieure, les amis de Daniel, qui avaient une intelligence. Pourquoi? Parce qu'ils étaient meilleurs, parce que c'était des chouchous du Seigneur. Mais non, c'est parce qu'ils ont demandé. Regardez Daniel, Dieu lui dit, même Dieu envoie un ange, attendez, Dieu envoie un ange, il lui dit, c'est à cause de tes paroles que je viens. Est-ce que vous réalisez? Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Seigneur, ouvre mes yeux. Ouvre mes oreilles, quand j'entends tous les jours, je le sais, moi, je suis bien placé. Ouais, je lis la Bible, je comprends rien, ça sert à rien, ou je l'ai lu tant de fois, vous savez, moi. Ah ouais, ben, moi, je pense que, Seigneur, ouvre mes yeux, vraiment. Pour que je comprenne les merveilles de ta loi. Pour que je comprenne surtout le message que tu veux me donner, la pensée que tu veux m'adresser. Beaucoup de chrétiens, ils connaissent rien. Comme Jean-Baptiste a dit, mais il y a quelqu'un au milieu de vous que vous ne connaissez pas. Il y a plein de gens, ils sont dans les églises. Je peux vous le dire. Et je sais de quoi je parle. Ça fait 34 ans que je suis pasteur. Je peux vous dire qu'il y a des gens qui, des chrétiens, qui servent Dieu, qui chantent, etc. Ils chantent bien. Comme vous. Il y a des gens qui, mais, il y a des gens même qui prêchent. Mais qui ne connaissent pas Dieu. Est-ce qu'il faut connaître Dieu pour prêcher? Non, il faut connaître la Bible. Vous comprenez la différence? Pas pareil? Il faut connaître la Bible par cœur. Moi, je vous prends un païen. Me le donner 6 mois, et j'en fais un prédicateur. Un bon prédicateur. Vous le croyez? Ouais. Je dis ça, mais c'est vrai. Je suis sûr que Jonathan, il prend un gars qui chante de travers, et au bout de 6 mois, il en fait un bon meneur de chant. Oui ou non? Moi aussi. Mais je le pense. Comment? Oui, je parle pas des gars comme Jérémy. Jonathan, je parle des gens normaux, des gens... Non, mais vous comprenez ce que je veux dire. Mais connaître Dieu. Connaître Dieu. Connaître sa parole. Seigneur, je veux connaître. Mais demande-le, demandez-le. Quel est mon besoin, Seigneur? Quel est mon besoin? Il vous le montrera. Si vous demandez du pain, il vous donnera pas une pierre. Mais si vous demandez n'importe quoi, il vous donnera rien. Il a dit ça, Jésus? Que si on lui demandait du méchant comme nous étions, nous savions donner de bonnes choses à nos enfants, et que lui, le Père Céleste, si nous demandons du pain, il nous donnera du pain. Seigneur, donne-moi ce dont j'ai besoin. Peut-être, ouvre nos yeux, on ne se trompera pas beaucoup. Ouvre mes yeux, Seigneur. Je vais recommencer l'évangile de Matthieu, et je te demande de me montrer ma situation. Je te demande de montrer dans quel état spirituel je suis. Peut-être que je suis tout tiède, peut-être que je suis loin de toi et que je fais croire aux gens que je suis bien avec toi. Seigneur, ouvre mes yeux. Il le fera. Il le fera, il frappe. Dans cette église tiède, il s'y intéresse. Il nous aime même si ça va pas. Jésus, est-ce que Jésus aimait Saul de Tarse? Est-ce que Jésus aimait le jeune homme riche? Vous avez vu les deux parcours des deux religieux? Dieu les a, il s'est écrit, Jésus les aimait. Et les résultats ont été différents, mais ça fait rien. Dieu nous aime. Le Seigneur, il nous aime. Il l'a prouvé au calvaire. Alors, terminons cette réunion en disant, mais Seigneur, maintenant, moi, je veux savoir dans quel état je suis. Montre-moi le Seigneur. Parce que c'est un reproche que Jésus a souvent fait. Et il le fera. Montre-moi, Seigneur, où j'en suis. Prenez du temps. Prenez du temps. Vous avez vu le premier conseil que Jésus donne à cette église de la Odyssée? Vous vous rappelez le premier conseil? C'est quoi le premier conseil? C'est le conseil, Dieu ne nous force pas. Alors, quel est le premier conseil que Jésus adresse à l'église de la Odyssée? Je te conseille d'acheter de moi de l'or éprouvé par le feu afin que tu deviennes riche. Il y a une richesse spirituelle. Et l'or pour le fondre, vous téléphonez demain à un orfèvre. Et quoi qu'aujourd'hui, ce sont des appareils rapides. Mais demandez, il y a 2000 ans, pour fondre l'or, combien de temps il fallait? Parce que l'or, il fond, je ne sais plus à combien, à 1700 ou 1800 degrés. Seigneur, ça veut dire quoi? Il va me falloir du temps, beaucoup de temps, pour que je puisse voir certaines choses disparaître. Vous savez comment ils font les orfèvres? Vous avez été sur Internet, voir les fondeurs d'or? Allez-y, c'est impressionnant. Avec Internet, je vous pouvez tout avoir. De bien. Et il faut du temps et dans de l'or, par exemple, l'or, vous savez comment ça marche, l'or pur, c'est du l'or à 24 carats. Ça veut dire que sur 24 grammes d'or, il y a il y a 24, il y a 24, sur 24 grammes, il y a 24 grammes d'or. 16 carats, ça veut dire qu'il n'y a que 16 grammes d'or sur 24. C'est clair? Vous me suivez? Voilà. Donc, si vous voulez que l'or soit pur, il faut le mettre à haute pression. Et quand ils font, les tout remontent. Tout ce qui n'est pas de l'or remonte. Et puis après, ils l'enlèvent. Et lorsque notre cœur reste devant Dieu, il y a des choses qui finissent par fondre. Et le Seigneur nous montre, il me montre peut-être mon orgueil. Est-ce que ça peut arriver qu'il y ait de l'orgueil dans notre cœur? Et ainsi de suite. Et c'est là qu'on sort de cette cécité et que le Seigneur nous ouvre nos yeux. Ça vaut la peine que nous prenions du temps pour qu'on arrive à lui demander ce qu'il faut vraiment et ce qui correspond à notre besoin. Vous le connaissez peut-être même pas. Alors cherchons le royaume de Dieu et sa justice, comme on a essayé de le chanter tout à l'heure. Cherchons le royaume de Dieu. Demandez à Dieu, passez du temps. Je m'adresse à ceux qui sont superficiels avec Dieu. Il y a plein de gens superficiels. Le culte de 5 minutes, c'est souvent de se moquer de Dieu. Demandez-lui au Seigneur. Et il s'arrêtera. Il s'est arrêté. Il ne peut pas ne pas s'arrêter. Si vous le cherchez, il s'arrêtera. Moi, quand quelqu'un me dit « je cherche Dieu », il ne s'arrête pas, je dis « vous ne devez pas le chercher longtemps, vous ne devez pas le chercher beaucoup ». C'est se moquer de Dieu. Jésus a dit « ceux qui me cherchent, qu'est-ce qu'ils font ?» Ils me trouvent. Alors on va lui demander cette grâce. Vous voulez bien ? Ne l'oublions pas, si Dieu nous a donné son Fils au calvaire, il nous donnera aussi toutes choses qui correspondent à un besoin. Notre Père, tu nous as laissé ces histoires dans ta parole pour nous rappeler combien tu es capable de t'arrêter malgré les foules de besoins, malgré la foule de gens qui t'invoquent, la foule de gens qui te prient sur la terre. Tu es capable de t'arrêter lorsqu'un homme te cherche. Et tu vois, Seigneur, qui serait là ce soir, tu savais qu'il viendrait. Seigneur, nous voulons être honnêtes devant ta parole, vraiment honnêtes. Tu sais quel est le besoin de chacun. Toi, tu sais. Et si nous ne nous le connaissons même pas, tu peux, comme tu l'as fait pour David, te révéler. Et comme tu lui as montré qu'il devait te demander de l'intelligence pour diriger le peuple d'Israël, nous te demandons de nous montrer vraiment ce que tu as à nous montrer. Et je sais, Seigneur, et nous le savons, que tu ne pourras pas faire autrement que de pourvoir, parce que tu réponds au juste. Alors, Seigneur, oui, nous voulons vivre ce que nous avons chanté, de chercher d'abord ta présence, le royaume de Dieu, tout ce qui est juste, sachant d'autant plus que toute chose nous sera donnée par-dessus. Seigneur, merci pour ta parole. Oui, nous voulons ressembler à ces hommes qui, malgré leur cécité, ont couru vers toi pour se retrouver à tes pieds. Que ton nom soit béni pour ta parole, Seigneur. Ouvre nos yeux afin que nous connaissions les merveilles de ta loi. Que ton nom soit béni, Seigneur Jésus. Amen.